Bonjour à tous, à la une ce midi, j'ai interjeté appel car je me considère innocent. Les mots de Jean-Marie Bernard ce matin lors du premier conseil départemental des Hautes-Alpes. Depuis sa condamnation à la mi-mars dernier, les juges du tribunal correctionnel de Lyon l'avaient condamné à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Municipal de 2026, les règles de scrutin changent pour les communes de moins de 1000 habitants. À un an des élections, fini les noms à barrer sur les bulletins, place aux listes. Comme pour les communes de plus de 1000 habitants, elles devront être paritaires hommes-femmes. Une réforme que la droite et les communistes voulaient pour 2032, contrairement au gouvernement. Sisteron, contraint de réduire ses effectifs communaux, le conseil municipal a décidé de ne pas remplacer 10 départs à la retraite dans ses agents. Conséquence, selon le maire Daniel Spagnou, du désengagement de l'État chiffré par la ville à hauteur de 2 200 000 euros de baisse sur ces 5 dernières années. Et puis pour Jean-Pierre Pradallier, il faut un plan d'envergure pour redynamiser les centres-villes. Des propos tenus par le vice-président de la CCI 04 à l'occasion des premières rencontres des unions commerciales de l'année. C'était à Digne-les-Bains hier. Premier conseil départemental pour Jean-Marie Bernard après sa condamnation. Cela débutait ce matin, 9h30. Le 14 mars dernier, le président du département des Hautes-Alpes avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans. Les raisons, favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Une décision dont l'homme du dévolu a fait appel, ce qui maintient pour le moment son innocence. Suite à cette condamnation, les deux députés des Hautes-Alpes ainsi que plusieurs conseillers départementaux avaient demandé sa mise en retrait de la présidence sans succès. Pourtant, cela a animé les premières prises de parole ce matin lors du conseil départemental. Aurore Valori.
À commencer par le propos introductif du président du département, il a aussitôt évoqué ce sujet pour indiquer qu'il avait interjeté appel de cette décision. Le dévoluard s'en est expliqué aussitôt.
Tout simplement parce que je me considère innocent et que je considère n'avoir rien à me reprocher dans la passation du marché mis en cause, celui de location de longue durée de véhicules à usage des services du département. Aussi, j'ai le sentiment que j'ai des arguments à faire valoir et qu'ils n'ont pas été entendus par le tribunal. Je m'interroge donc sur les raisons de ma condamnation en première instance, d'autant qu'encore aujourd'hui, la motivation de ce jugement est inexistante et que le tribunal correctionnel de Lyon est incapable de m'en communiquer la teneur.
Le président a rappelé qu'il demeure innocent malgré les clapissements de certains conseillers départementaux, argumentaire sur lequel ont immédiatement rebondi les élus indépendants de Tallard, Jean-Baptiste Ayot et Sandrine Rambaud. Ces deux élus ne s'étaient pas prononcés au début de la mandature en 2021 pour renouveler Jean-Marie Bernard à la présidence en raison des instructions judiciaires en cours à cette époque. Sur ce sujet, les juges de Lyon ont donc statué mi-mars, ce qui a amené Sandrine Rambaud et Jean-Baptiste Ayot à prendre position.
Ce qui nous préoccupe, je le dis avec solennité, c'est qu'ici s'entrechoquent éthique et politique. Alors crions-le haut et fort une nouvelle fois, avoir interjeté appel vous accorde le statut de présumé innocent, c'est la loi et nous ne le discutons pas. Il nous faut admettre, malgré tout, que si un élu qui assume des responsabilités publiques demeure un justiciable comme un autre, pouvant de facto contester devant les juridictions compétentes une décision de justice qui lui serait défavorable, ce même élu, aux yeux du citoyen lambda, qu'on le veuille ou non, n'est pas totalement un justiciable comme un autre. C'est précisément là, chers collègues, que le tribunal judiciaire se trouve en conflit direct avec le tribunal populaire.
En réponse aux arguments des élus indépendants, Arnaud Murgia, conseiller départemental et maire de Briançon.
L'éthique et la responsabilité doivent s'appliquer à tout un chacun. Vous avez totalement raison, mais je crois que ça va dans les deux sens. Et je crois que le président a dit quelque chose d'assez simple, consistant à dire qu'il ne demandait absolument pas à avoir plus de droits que les autres, mais il demandait à ne pas en avoir moins. La situation est assez simple, elle ne le regarde finalement que lui. Il n'a pas plus de droits que n'importe quel citoyen, il n'en a pas moins par contre, et il a le droit de se défendre, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, dans le respect de toutes les procédures judiciaires. Et moi j'appelle tout simplement à ce qu'on s'en tienne à ce point de droit le plus simple.
Pour rappel, au moment de la condamnation, l'édile de Briançon n'avait pas commenté la décision de justice.
Merci Aurore. L'ordre du jour au-delà de la condamnation concernait les Jeux Olympiques de 2030, l'aide alimentaire, le RSA ou encore les travaux à venir sur les routes, notamment au niveau du col du Galibier pour 2026. Les règles de scrutin changent pour les communes de moins de 1000 habitants pour les prochaines élections municipales. Après une séance houleuse hier à l'Assemblée nationale, la parité a été élargie aux communes de moins de 1000 habitants. Concrètement, avant ce vote, le scrutin pour les élections municipales de ces communes était majoritaire, plurinominal et à deux tours. Les électeurs pouvaient barrer les noms des candidats proposés. Désormais, avec ce vote de l'Assemblée nationale hier, les règles changent. Toujours deux tours pour voter, mais désormais pour des listes avec une parité homme-femme à respecter, comme pour les communes de plus de 1000 habitants. La date d'entrée en vigueur de cette réforme a fait l'objet d'une rude bataille dans l'hémicycle parisien. La droite et les communistes souhaitaient une mise en application en 2032. Le gouvernement a demandé une deuxième délibération pour revenir au texte initial avec une entrée en vigueur dès 2026, dès l'an prochain. Et cela n'a pas plu à la députée des Alpes-de-Haute-Provence, Sophie Vaginéricourt, du groupe Union des droites pour la République, opposée à la mesure.
Le groupe UDR votera contre cette réforme à un an des élections municipales. Car sous couvert de parité, cette réforme va en réalité, car c'est la vraie finalité de cette réforme, fragiliser le fonctionnement démocratique. Rappelons quand même que cette réforme est portée par la large coalition des élections législatives qui va de l'extrême gauche au socle commun et le plus étonnant quand même, par les sénateurs censés défendre les territoires et les petites collectivités. Alors pourquoi les communes rurales vont-elles être fragilisées ? Parce que mettre de telles contraintes sur les communes rurales, avec notamment la parité que vous brandissez comme un étendard, c'est en réalité une contrainte qui vise à empêcher de former des listes. En réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est plus de découragement dans les campagnes, plus de sièges vacants, plus de recul de la participation dans le monde rural. Vous vous érigez en défenseur de la démocratie, mais vous êtes en réalité les censeurs.
La démocratie locale est une chose trop sérieuse pour être livrée à l'humeur du dimanche des élections, a déclaré Françoise Gatel, la ministre déléguée chargée de la ruralité. Les partisans de cette parité pour toutes les communes ont dénoncé l'ancien système qui donnait souvent lieu à une pratique dite de tir au pigeon pour les élus sortants. Ces changements doivent permettre la constitution d'équipes municipales cohérentes et moins fragiles, selon la ministre déléguée. En attendant ce changement de scrutin pour les communes de 1000 habitants, certaines souffrent toujours du désengagement de l'État dans leur budget. C'est le cas de Sisteron. Le conseil municipal a décidé la semaine dernière de ne pas remplacer 10 départs à la retraite dans ses agents communaux, conséquence du désengagement de l'État. La ville l'a chiffré à hauteur de 2 200 000 euros de baisse de dotation sur ces 5 dernières années. D'autres emplois qui devaient s'ajouter dans certains services ne seront finalement pas contractés. On écoute Daniel Spagnou, le maire de la commune.
Alors jusqu'à maintenant, bon, on a pu se débrouiller de compenser le manque par des économies, par des emprunts à taux bas, enfin bon. Mais là, on arrive maintenant à la fin de l'exercice et maintenant, eh bien, il faut prendre des mesures beaucoup plus draconiennes. Et le seul volet sur lequel on peut jouer et qui peut faire baisser du budget, c'est bien sûr les frais de personnel qui sont les plus importants dans un budget communal. L'exercice a été encore réalisable cette année, mais je ne sais pas s'il sera réalisable dans les années qui viennent, ou alors il faudra supprimer des services publics ou les fermer au public beaucoup plus souvent que maintenant. Il y aura moins de services, il y aura moins d'employés. Et encore malgré cela, eh bien, ça n'a pas suffi.
Cela n'a pas suffi, comme le dit Daniel Spagnou, puisqu'il a également décidé d'augmenter de 3% le foncier et de faire des économies dans d'autres services. Quant aux subventions, elles resteront stables. Face à la baisse de création de nouveaux logements dans les Hautes-Alpes, l'État et le département s'engagent. Une baisse constatée depuis plusieurs mois, alors que le territoire compte de près de 40% de résidences secondaires et de 10% de logements vacants. Pour créer de nouveaux logements, notamment sociaux, les maires seront encourager à rénover et reconvertir du foncier bâti communal en logement, explique Jean-Marie Bernard, le président du département. Des aides de l'État et du département qui peuvent aller jusqu'à 95 000 euros par logement. actions, échanges d'idées ou encore projets communs pour renforcer l'attractivité commerciale des villes-centres du département basalpin. La CCI des Alpes-de-Haute-Provence tenait hier matin sa première rencontre des unions commerciales de l'année, un rendez-vous au sein du Golf Resort de Digne-les-Bains afin de mettre en avant les bonnes pratiques et les initiatives locales. Si après la crise de la Covid-19, une petite embellie avait été constatée par les commerçants, elle a masqué la réalité, celle d'une pente descendante depuis plusieurs années. Pour le vice-président de la CCI des Alpes-de-Haute-Provence, Jean-Pierre Pradallier, il faut un plan d'envergure pour redynamiser les centres-villes et ne pas assister à une mort lente des commerçants.
On le voit à travers des chiffres tels que le chiffre de la vacance commerciale, hein, puisqu'il repart à la hausse en 2024, mais c'est un indicateur qu'on ne peut pas suivre à lui tout seul, parce qu'en fait, au-delà de la vacance commerciale, il y a aussi l'offre commerciale, c'est-à-dire quels sont les commerces aujourd'hui qui sont implantés dans les centres-villes. Et là, force est de constater que bien, les centres-villes ne sont pas toujours effectivement très bien dotés au niveau commerce. La situation du commerce en centre-ville est délicate, elle est difficile, hein. Je crois que c'est Albert Camus qui disait que ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc je pense qu'il faut avoir un discours qui est très, très clair, très précis, très transparent. Il est grand temps que nos élus, en tout cas, se penchent sur ce problème et des actions fortes, parce que vous savez qu'à un moment donné, le commerce de centre-ville n'est pas forcément là pour toute la vie, et qu'il est très fragile aujourd'hui, et que la moindre secousse peut vraiment le déstabiliser. Donc on a besoin vraiment que tous les acteurs, y compris les collectivités, mais les acteurs économiques, et la Chambre prend toute sa place aussi, soient au soutien des commerçants de centre-ville notamment, pour faire en sorte que leur activité soit pérenne.
Des propos recueillis par notre correspondant à Digne-les-Bains, Michel Bonnefoy. Une saison record pour Pralou, le chiffre d'affaires est en augmentation de 1,76%. L'hiver 2024-2025 aura été exceptionnel avec une fréquentation en hausse. Une trentaine d'événements par semaine étaient proposés par l'office de tourisme de Pralou. Selon la station, le mois de mars a permis des conditions de glisse idéales avec jusqu'à 171 cm de neige en altitude et 45 cm en station. Et puis on termine avec un mot de sport, puisque le coach des Diables Rouges de Briançon poursuit son aventure avec le club. Arrivé de Chambéry à l'été 2024 en remplacement de Martin Vasse, parti à l'époque chez les Rapaces de Gap, Pierre Bergeron a signé une première saison plus que convaincante avec les Rouges et Noirs. Après une première partie de saison passée quasiment à la dernière place une grande partie du temps, les Diables Rouges sont devenus redoutables en 2025 en totalisant à partir du 14 janvier dernier sous ses ordres 10 succès en 13 rencontres grâce à cette série de victoires marquantes, notamment contre Grenoble, devenu champion de France ce week-end, ou encore Rouen, champion de France l'an dernier. Le club de la Cité Vauban était passé à côté des play-offs d'un petit point seulement. Les joueurs rouges et noirs avaient ensuite assuré leur maintien lors des play-downs et avaient par la même occasion évité la dernière place qu'ils avaient connue les saisons précédentes.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.